Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmatt. Alors la semaine dernière, nous avions entamé en compagnie de Benoît Béherderic, historien, philosophe et collaborateur scientifique à l'ULB. Donc nous avions entamé en sa compagnie un voyage à la découverte du deux-roues, le deux-roues, le vélo. Et oui, alors nous avions bien passé en revue avec lui les différents type de vélo qui s'était succédé avant d'arriver au vélo qu'on connaît aujourd'hui, hein, la draisienne, la michaudine, le grand bi, la bicyclette de sécurité, toutes sortes d'étapes et d'évolutions. Ce vélo, en fait, c'est très fort démocratisé, c'est de plus en plus répandu dans le premier quart du XXe siècle. Auparavant, c'était plus un objet qui était utilisé par l'aristocratie, et puis à partir du moment où la plèbe s'est emparée du vélo, l'aristocratie est retournée au cheval pour ensuite passer à l'automobile. Et donc, le vélo ne devient plus un objet de hobby, mais véritablement un instrument de travail, un instrument de mobilité. Il sera surtout utilisé à partir de 1936, avec notamment l'apparition des congés payés et la naissance du cyclotourisme. Alors, c'est assez intéressant, évidemment, du coup, puisque l'histoire du vélo, on peut la croiser à l'histoire des droits ouvriers, comme on vient de le faire, ou comme on l'a fait la semaine dernière, aussi à l'histoire de l'émancipation féminine. Et oui, si nous portons, mesdames, des pantalons aujourd'hui, c'est en partie grâce aux premières cyclistes. Alors, on va retrouver Benoît Béherderic aujourd'hui pour une deuxième partie de cette histoire du vélo. Dans cette deuxième partie, le focus sera mis sur le sport, sur les défis de la mobilité. Et donc, nous le rejoignons tout de suite pour parler de cet âge d'or du vélo. Âge d'or du vélo qui court de la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e.
C'est un âge d'or dans la mesure où le vélo sera à la fois un objet de travail indispensable, de mobilité, de déplacement, un objet de loisir, un objet de sport aussi, avec toutes les activités qui vont se dérouler autour, un instrument qui va aussi être utilisé dans l'armée. Il y aura un usage militaire. Alors ça, cet usage militaire ne va pas être tellement développé. C'est une sorte de rendez-vous un peu manqué, parce qu'il arrive en quelque sorte peut-être un peu trop tard. Mais dans un premier temps, fin du 19e siècle, on avait pensé que le vélo pourrait prendre le relais des chevaux, et à moindre coût, parce qu'il ne faut pas d'avoine. C'est uniquement lié à la force musculaire des soldats qui le pratiquent. Et donc, toute une série de bataillons cyclistes sont mis en place. On pensait que ça permettait des déplacements plus rapides, et que ça prendrait encore une fois le relais des chevaux. Mais en réalité, lors de la Première Guerre mondiale, très rapidement, le front s'est enlisé, les cyclistes ont rejoint les tranchées, et pour ce qui est des déplacements, les camions, les voitures ont pris, les camions en particulier, ont pris le relais, ont été considérés comme plus efficaces. Après, il y a eu le développement des chars, etc. Et donc, en fin de compte, le vélo militaire a perdu un peu de son efficience, de son efficacité à ce moment-là. Par contre, le vélo comme instrument de déplacement a connu, à partir de là, un véritable âge d'or, comme je le disais. Vélo comme déplacement, vélo comme moyen de loisir, ça je l'ai dit aussi. Et aussi vélo sportif. Et alors là, la dimension sportive du vélo est fortement liée à la presse de l'époque. On estime qu'entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y a eu environ 1500 titres en France qui ont été consacrés au vélo. Donc il y a vraiment une explosion, on peut dire, de la presse écrite autour du vélo. Dans les titres qui ont été qui sont parus, il y a notamment l'un des plus célèbres d'entre eux, Le Vélo, qui a été fondé par Pierre Giffard, qui est quelqu'un qui venait du Petit Journal et qui a fondé ce journal consacré au vélo. Mais il faut se rappeler qu'on est en pleine affaire Dreyfus en France, hein. l'affaire Dreyfus, qui a duré de 1894 à 1906. Donc c'est cette affaire qui concerne cet officier, Alfred Dreyfus, officier juif accusé à tort d'espionnage et qui a été mis en prison, envoyé au bagne pour cela, et puis en fin de compte réhabilité, et qui avait été accusé à tort, comme je le disais. Et dans ce contexte-là, eh bien, la France entière se chamaillait autour de cette question de l'affaire Dreyfus. Ça intéressait tous les domaines de toute la société de bas en haut, on pourrait dire. Et cela va avoir une incidence jusque sur la presse sportive, parce que Pierre Giffard, qui avait fondé le Vélo, était aussi un fervent partisan du capitaine Dreyfus, de l'innocence de Dreyfus, et il a pris position dans son journal Le Vélo en faveur de Dreyfus, ce qui a suscité la colère de certains milieux industriels qui, eux, étaient anti-Dreyfusards, parmi lesquels le comte Albert de Dion, qui a suscité la création, contre le journal Le Vélo, d'un journal concurrent qui s'est appelé l'Autovélo, et qui, par décision de justice, a dû renoncer au terme vélo dans son titre pour ne pas reprendre le même titre que son concurrent, le vélo, et qui s'est appelé l'Auto. Et ce journal a été confié à Henri Desgranges, qui était un ancien coureur cycliste, un diplômé en droit, mais également un anti-Dreyfusard. Et cet Henri Desgranges s'est associé les services d'un journaliste, Géo Lefebvre, qui lui, je ne sais pas exactement ce qu'il pensait de Dreyfus, mais en tout cas, il a participé à ce journal. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer un grand événement sportif, donc à la demande de Desgranges, qui lui demandait de trouver quelque chose pour en quelque sorte couler le journal Le Vélo et créer le grand événement sportif qui allait permettre de récupérer tout le lectorat intéressé par le monde des sports et en particulier par le monde du cyclisme. Et c'est comme ça qu'en 1903, ils vont créer le Tour de France. Le Tour de France, qui est donc créé par un journal anti-Dreyfusard, hein, par le journal L'Auto, qui deviendra bien plus tard le journal L'Équipe, encore bien célèbre aujourd'hui, qui est ce journal qui est associé depuis l'origine, hein, au Tour de France.
Attend le Tour de France. À quel tintamarre, à quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Lui sourit, salue de la main, mais le lendemain, le troupeau bariolé s'avance au coup de pistolet. Oh, quel envolé de mollet. Dans le peloton qui s'élance, un petit gars prudent pédale en serrant les dents. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Mais lui se dit pour le garder, ça va barder. Dans les descentes, c'est la grande émotion. Et là-haut, dans l'école, le froid qui passe. Oui, mais au bout, quelle sensation quand on entend l'ovation du Parc des Princes. Dans l'aube fraîche où rien ne bouge, juges, sans corps brûlé de soleil, dorment d'un profond sommeil. Et tous, même la lanterne rouge, rêvent qu'à Paris, tout le monde se lève dans un cri. Il a le maillot, il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo, et chante sur l'air des lampions pour son champion. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, vite à la maison, pour voir son triomphe à la télévision.
Il s'agissait donc de créer une grande course qui va durer dans sa première édition de 1903 18 jours et puis après on augmente un peu, ça dure presque un mois, enfin une bonne vingtaine de jours, un peu plus. Une grande course dont les premières étapes étaient depuis Paris et jusqu'à Paris, enfin la banlieue parisienne, dans les premières étapes pour la première édition de 1903. Était Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Et alors, c'était pas la première course qui avait lieu, puisque il y en avait d'autres. Hein. Il y avait le Paris-Brest-Paris, il y avait le Paris-Bordeaux. Donc, il y avait toute une série de courses, mais aucune n'avait, en fin de compte, imaginé de faire un tour complet de la France. Cette course, ce Tour de France a connu un succès assez important dès le départ, mais ce succès n'était pas encore aussi important qu'il ne l'est devenu par la suite. C'est, je dirais, à partir des années 1909-1910, quand la montagne a été mise au programme de cette course, que véritablement, c'est devenu un succès très important, un succès populaire considérable quand il y avait les épreuves du Mont Ventoux, du col du Galibier, et d'autres passages très difficiles qui rendaient véritablement ce tour extrêmement ardu, à tel point que le journaliste Albert Londres a parlé des forçats du tour. Il a fait un reportage un peu alarmiste sur les conditions absolument épouvantables dans lesquelles se trouvaient les cyclistes de ce tour. Le premier à avoir gagné le Tour de France, c'était Maurice Garin. Et donc Albert Londres parle aussi des substances qu'ils doivent ingérer pour supporter finalement ces épreuves. C'est déjà du pré-dopage en quelque sorte, même si c'était un dopage encore très artisanal. Hein. C'était essentiellement de l'alcool, du vin, du cognac, peut-être du sucre aussi, mais parfois aussi de la cocaïne. Et surtout des conditions très difficiles. D'autant plus difficile que, entre temps, on avait inventé le dérailleur, le changement de vitesse, mais que Henri Desgranges, le patron du Tour de France, refusait à ses cyclistes parce qu'il estimait que c'était une épreuve physique et que c'était beaucoup trop facile avec un dérailleur. Et donc, il n'y avait pas droit jusque dans les années 1930-37, je crois. Donc, c'était une épreuve extrêmement difficile. Mais qui a aussi inscrit finalement dans la tradition française une association entre le sport, le territoire, l'identité nationale. C'était peut-être aussi une manière de faire référence à ce livre qui avait été écrit après la guerre de 70, la guerre en franco-prussienne au cours de laquelle l'Alsace-Lorraine avait été perdue par la France. Et le grand livre de géographie qui a été donné à tous les petits élèves de la Troisième République, c'était le Tour de la France par deux enfants, écrit par une femme qui s'était fait appeler G. Bruno. Et donc c'était parfois le seul livre que les jeunes enfants avaient lu. Et donc cette identité entre le sport et la France au sein de ce tour est devenue vraiment une marque profonde de l'identité nationale française, même si par la suite il y a d'autres courses qui ont pu faire un peu le pendant de ce Tour de France ailleurs. C'est le Tour d'Italie, le Giro. Il y a d'autres pays qui ont proposé des courses, mais aucune en fin de compte n'est aussi célèbre que le Tour de France.
J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort, faisant de la gymnastique, de la culture physique, de rugby, de football, de basket, du handball. Il y gagna du souple et de bons muscles souples, à tous ses petits copains pouvaient rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais, faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le Tour de France, arriver à Paris en vainqueur. Sacré roi des pédaleurs, faire le Tour de France. Bien vite il fit l'emplette d'une belle bicyclette, se mit à l'entraînement avec acharnement. Il gagna des épreuves, faisant ainsi la preuve qu'il pouvait des champions revendiquer le nom. C'est alors qu'une grande marque un beau jour le remarque, lui offrant un contrat qu'aussitôt il signa, réalisant ainsi le rêve qu'il avait séduit. Oui, faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le Tour de France, arriver à Paris en vainqueur. Être sacré roi des pédaleurs. Faire le Tour de France. Faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano.
Pendant ces années, les années d'or du développement de la bicyclette, on l'a vu, il y a un déplacement, c'est-à-dire que d'un objet de luxe, elle devient un objet utilitaire. Donc là, c'est un déplacement de classe, on va dire, d'une certaine manière. Est-ce que pendant cette période-là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le vélo est également principalement un outil d'adulte? Ou est-ce que le déplacement se fait aussi verticalement et touche tous les âges?
Non, je pense que ça touche à ce moment-là tous les âges, hein, parce qu'il y a toute une industrie qui se met en place et qui permet en fin de compte la diffusion de ce vélo à partir des vélos pour enfants et ensuite les vélos pour adultes, hommes comme femmes. Donc ça devient vraiment un instrument et un outil à disposition de tous. Alors effectivement, ça s'est beaucoup démocratisé, mais malgré tout, toutes les couches de la société utilisent le vélo. Je pense par exemple à un exemple sur lequel je suis tombé qui m'a amusé, c'est pendant la guerre, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, le vélo était davantage utilisé quand on n'avait pas de voiture. Enfin, de toute façon, la voiture n'était pas encore très répandue. Et je pense par exemple à Sartre et Simone de Beauvoir qui, pendant les vacances, pendant cette période d'occupation, eh bien, on fait des centaines et jusqu'à 1000 kilomètres par an pendant les mois d'été. Dans un premier temps, ils justifiaient ça par le fait d'aller voir des gens qui étaient liés au milieu intellectuel, d'aller voir Malraux, d'aller voir aussi certains milieux un peu liés à la résistance. Et puis, après, en fait, c'était aussi une manière de prendre le large par rapport à Paris, de s'aérer. et de d'utiliser cela comme un moyen de loisir. Alors ils ont fait ça aussi par défaut. Elle disait que s'ils avaient pu faire ça en moto ou en voiture, ils l'auraient fait en moto en voiture, mais là ils l'ont fait à l'époque en vélo. Donc ça touchait donc les classes intellectuelles, mais ça touchait finalement toutes les classes de la société. Et donc ce vélo est à ce moment-là présent effectivement dans tous les domaines de la vie, que ce soit la mobilité, le sport, les loisirs. Le sport, encore un aspect à souligner parallèlement au Tour de France et préalablement au Tour de France, dès la fin du 19e siècle, toute une série de vélodromes ont été créés et ils ont connu un succès considérable. C'était vraiment un lieu où on allait pour passer du bon temps, voir courir les cyclistes. Il y avait notamment l'épreuve des 6 jours au Vélodrome d'hiver, le Veldiv qui va malheureusement devenir tragiquement célèbre lors de la Seconde Guerre mondiale, quand en 1942 il y aura les rafles du Veldiv et qu'on va mettre toute une série de juifs qui ont été raflés et les caserner en quelque sorte dans ce Veldiv. Mais avant ça, c'était évidemment un lieu de festivité, de divertissement, dans lequel on pouvait aller pour voir les cyclistes s'entraîner, ou alors lors de course on pouvait aller manger un morceau, écouter de la musique, et tout en assistant aux courses de cyclistes. Donc véritablement la bicyclette, le vélo est devenu un objet de culture populaire de masse. Ceci a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après cette période-là, on entre dans une nouvelle période au cours de laquelle, on va assister en quelque sorte au déclin de l'usage de la bicyclette. La petite reine va être détrônée par la reine voiture. Et donc c'est le développement de l'automobile dans les Trente Glorieuses, hein, dans l'époque qui suit la Seconde Guerre mondiale. Un peu partout en Europe notamment, on ouvre les centres-villes aux voitures et on trace des routes automobiles, des autoroutes. Et donc on considère que la bicyclette est une chose en quelque sorte dépassée. Les voitures se démocratisent aussi, le coût des voitures se démocratise. Les classes populaires peuvent accéder à la possession de voitures. Il y a aussi les deux roues motorisées qui vont largement se développer, les motos, les mobylettes. Et donc tout ceci va mettre un peu au rancard, va déclasser un petit peu le vélo, qui va demeurer malgré tout, bien entendu, un objet sportif. Pendant longtemps, le vélo a été le sport roi. Par la suite, il sera peut-être détrôné par le football, mais ou en parallèle, le football était important aussi. Mais en tout cas, le vélo demeure un objet sportif important, puisque le Tour de France n'a pas cessé d'être une compétition qui a une aura considérable. Mais en fin de compte, le vélo va être un peu réduit à cette dimension sportive ou à la dimension de loisirs, les vélos pour enfants ou les vélos de vacances, mais va perdre sa fonction de vélo utilitaire, vélo pour la mobilité, en tout cas en Europe, hein, parce que évidemment si on pense en Chine, on a des images des vélos, de nombreuses personnes, ouvriers, paysans qui se déplacent à vélo dans cette même période. Mais à l'époque, en tout cas en Europe, dans les années 50, 60, 70, c'est le tout à la voiture, c'est la voiture qui domine.
Et puis, les villes vont être de plus en plus encombrées par cette fameuse voiture. Et au XXIe siècle, on constate un retour vers ce vélo qui n'est plus uniquement élément de loisir, élément sportif, qui reprend sa fonction véritable de moyen de transport.
C'est ça, ça commence un peu avant, hein, puisque on peut dire qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, il y a déjà un retour du vélo, notamment par le développement du mountain bike, le VTT, le vélo tout-terrain, qui a été inventé en Californie je crois aussi un peu développé au Colorado, et puis qui arrive en Europe dans les années 80, qui séduit les jeunes tout, d'abord, et puis aussi d'autres personnes. Et aussi, on commence, fin du XXe siècle et puis début du XXIe siècle, à réfléchir aussi aux dimensions écologiques, à la question de la mobilité douce, des transports moins polluants, et puis aussi parfois plus efficaces dans des villes qui sont engorgées par les voitures. Il y a évidemment la mise en place de politiques de mobilité volontariste qui sont mises en place, parfois en suscitant évidemment des critiques, des conflits, hein, la gestion de l'espace public et des voies de circulation n'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, ça suppose, l'espace n'est pas infini, donc il faut trouver un équilibre entre les différents usagers de la route, qu'il s'agisse des automobilistes, des cyclistes, des motocyclistes, des personnes à trottinette ou des piétons. Peut-être maintenant, aujourd'hui, ce sont les piétons qui sont un peu malmenés par les différents engins en circulation, y compris dans les centres-villes piétonniers où malgré tout les vélos ou les trottinettes circulent, et parfois ce sont les piétons qui se trouvent aujourd'hui en insécurité. Mais donc voilà, il y a toute une évolution évidemment de ces moyens de transport et de ces politiques de mobilité qui font de plus en plus place à des modes de transport multimodaux, hein, on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas à différents moyens de transport, et à des centres-villes d'où l'on essaie de faire partir les voitures, alors que dans les années 1950, on essaie au contraire d'amener les voitures jusqu'au cœur de la ville. Donc le monde change de ce point de vue-là, et le vélo reprend ses droits. Il y a une véritable renaissance, évidemment, depuis maintenant une 30, 20 ans du vélo dans les villes. Et ceci est favorisé aussi par le développement du vélo électrique, du vélo à assistance électrique, qui est en fait quelque chose de très ancien, parce que les premiers prototypes remontent à la fin du 19e siècle. Et on a aussi un développement des vélos électriques, mais sur une très, très, très minoritaire, évidemment, dans les années 1930. Mais donc, sur le principe, ce vélo électrique existe depuis longtemps, mais il n'a véritablement été développé que dans les années 1990-2000, dans un premier temps, d'abord en Chine, et puis aussi en Europe, bien entendu. Et donc beaucoup de nos vélos viennent de Chine, mais paradoxalement, on peut dire qu'aujourd'hui, du fait de l'évolution économique et d'une certaine progression du pouvoir d'achat chinois, je pense qu'aujourd'hui les Chinois se détournent un petit peu du vélo, alors qu'en Europe on assiste à une véritable renaissance des vélos en ville. Mais donc voilà, il y a peut-être moins de Chinois qui font du vélo aujourd'hui que dans les années 1980. À l'inverse, nous faisons en Europe beaucoup plus de vélos que nous n'en faisions à l'époque.
Alors le vélo d'aujourd'hui, vous le disiez, il y a eu des changements d'un point de vue, je veux dire, mécanique, hein, effectivement, le développement principalement des vélos électriques, mais ça reste malgré tout un objet qui, techniquement, même s'il n'y a plus d'énormes révolutions, change encore beaucoup. Et c'est un objet qu'on peut trouver dans une variété de prix assez infinie.
Oui, il y a encore beaucoup de progrès techniques. Évidemment, fondamentalement, les bases, je le disais, ont déjà été établies à la fin du 19e siècle avec cette bicyclette de sécurité. Mais on a quand même, on a cessé de progresser en diminuant le poids des vélos, en augmentant l'efficacité des freins, les freins à disque notamment, en améliorant l'aérodynamisme de ces engins. Et donc, effectivement, on a une gamme de prix qui vont de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros pour l'achat d'un vélo. Effectivement, aujourd'hui, il y a une très très grande variété, très grande diversité. Chacun peut trouver un vélo selon son goût ou selon son porte-monnaie, je dirais.
Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un objet qui traverse toutes les classes sociales.
C'est un objet qui traverse toutes les classes sociales. Oui, certainement. C'est plus tellement un marqueur social. On n'est plus dans le vélo du riche du début, le gadget pour dandy. On n'est plus non plus dans le vélo cheval du pauvre de la première moitié du XXe siècle. On est véritablement dans un vélo pour tout le monde, je pense. Oui.
Alors l'étape suivante, ce serait quoi ? Réfléchir peut-être à comment mieux adapter les villes au vélo, parce que, à mon avis, vu les prévisions, le passage à la voiture électrique qui va de nouveau être un véhicule beaucoup plus cher, etc., je pense que le vélo a encore de beaux jours devant lui.
Je crois effectivement qu'il faut adapter les villes au vélo. Sans exclusive malgré tout. Je pense qu'il faut tout de même toujours respecter tous les usagers de la route. Hein. Comme je disais, penser aussi aux piétons maintenant. Il faut malgré tout permettre aux personnes âgées qui ne peuvent pas prendre le vélo de trouver un autre moyen pour accéder au centre-ville. On ne peut pas considérer que le vélo est la solution unique pour tous les problèmes de mobilité dans les villes, mais certainement, et c'est dans ce sens-là de toute façon que l'on se dirige depuis maintenant un certain nombre d'années, il faut malgré tout ouvrir les zones de déplacement dans les villes à des mobilités beaucoup plus douces. Et le vélo doit être au cœur de cela malgré tout, ça c'est sûr. Il y a des associations qui militent pour cela depuis longtemps. Je pense en Belgique, il y a le GRAC qui fête ses 50 ans, qui vient de changer de nom, qui s'appelle maintenant A Vélo en un mot et avec deux L. C'est une association qui a été fondée en 1975 quand même, et à ce moment-là c'était des pionniers. Alors GRAC, c'est un terme qui a l'air un peu barbare comme ça, hein, mais ça veut dire groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Mais ce qui est amusant, alors moi ça m'amuse en tant qu'historien, c'est qu'il y a quand même un petit clin d'œil historique, c'est que GRAC, ça renvoie aux frères GRAC, qui sont des tribuns de la plèbe pendant la Rome antique, pendant la République romaine, au IIe siècle avant notre ère, et qui avaient essayé de distribuer davantage les richesses pour aider un peu les pauvres de la société romaine du temps. Ils sont tous les deux morts assassinés. Ils ont été opposés au Sénat romain. Donc voilà, alors c'est évidemment pas tellement enthousiasmant de ce point de vue-là, mais ils se sont battus pour la défense des plus pauvres pendant la République romaine. Évidemment, ça a été en fait à l'origine les débuts des violences politiques à Rome. Ça va être la guerre civile et puis plus tard la constitution de l'Empire. Mais donc, ces frères Grac, ce sont des personnages qui restent des références dans un combat un peu, je dirais, progressiste, une référence antique à un combat progressiste. C'est pour ça d'ailleurs que pendant la Révolution française, une sorte de proto-communiste s'est appelé aussi Gracchus Babeuf. Et donc voilà, les Grac, ce sont ces modèles de Romains qui ont essayé de venir en aide aux plus défavorisés de la société, et c'est aussi le nom que cette association en faveur du droit des cyclistes, le Grac, a pris en 1975 jusqu'à maintenant son changement de nom, c'est devenu A Vélo.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Usagers aujourd'hui, donc vous avez parlé de tout ce qui touche à la mobilité douce. Est-ce que aujourd'hui il y a malgré tout une sorte d'image qui est associée aux cyclistes? Est-ce que le cycliste en ville, on le voit comme répondant à tel et tel et tel et tel critère, ou est-ce que vraiment l'usage aujourd'hui du vélo au quotidien est quelque chose qui se retrouve dans toutes les couches de la population?
Je crois que ça se retrouve dans toutes les couches de la population, mais certainement qu'il y a des caricatures, c'est-à-dire qu'on imagine le cycliste comme avec certains préjugés, certains peuvent être positifs, d'autres négatifs. Je dirais ça dépend de quel côté on se trouve. Moi, je pense vraiment que on trouve des cyclistes dans toutes les catégories de la population. Mais évidemment, quelqu'un qui sera particulièrement agacé par des cyclistes, hein, une sorte de d'automobiliste très attaché à ses droits d'automobiliste, va considérer que les cyclistes sont des bobos qui gênent sa circulation. À l'inverse, on peut trouver chez les cyclistes aussi certains préjugés sur les usagers de l'automobile, mais en réalité, les choses sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus nuancées que ça. Personnellement, je suis aussi automobiliste, donc je ne suis pas exclusif. Il m'arrive aussi de rouler en voiture. Et je pense qu'on doit finalement accepter cette diversité. Et encore une fois, on parlait aussi de multimodalité. En fin de compte, c'est vers cela que l'on doit, à mon sens, se diriger. C'est-à-dire qu'à certains moments, on est cycliste, à certains moments, on est piéton, à certains moments, on est usager de l'automobile, à certains moments, on prend les transports en commun, on prend le train. Et en fin de compte, il faut trouver le mode d'équilibre le plus harmonieux pour tout le monde, sans rejeter complètement aucune catégorie de personnes.
C'est étonnant, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vessie, de son vélocipède. Ah ah, c'est étonnant, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vessie, de son vélocipède.
Thank you.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Berderic de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir.
What?